Bonjour.
Bonsoir.
Salam alaikum, alaikum salam.
Hello.
Konnichiwa.
Hola amigos todos.
Guten Tag.
Ça va dire hop.
Vas-y, c'est compliqué le talent
d'ailleurs. Émission spéciale en direct de Montpellier.
Chut, on est dans le musée.
Le musée, c'est Moco.
Bienvenue au Moco.
Hôtel des collections pour l'exposition Art en exil.
Des collections du monde entier.
Le Chili.
Sarajevo.
La Palestine.
En bref, l'art pour soutenir la paix.
Bonjour, nous sommes en direct depuis l'hôtel des collections de Montpellier au Moco. Au fait, savez-vous que Moco signifiait Montpellier Art Contemporain ? Aujourd'hui, avec Félix, Iliane, Enzo, Alima et moi-même Gilbert, on est là parce qu'on a envie de vous parler d'une expo qu'on a eu la chance d'aller voir récemment.
Ça s'appelle L'Art en exil. On va vous proposer des chroniques, des interviews et des reportages sur cette exposition. Mais pour débuter, je vous propose d'écouter Guillaume, notre guide, qui nous explique d'où viennent les collections regroupées actuellement au Moco.
C'est trois collections qui sont faites uniquement de dons d'artistes durant des périodes difficiles pour trois pays. Le Chili, quand il y avait la dictature de Pinochet, Sarajevo, capitale de la Bosnie, quand il y avait la guerre dans les années 90, et la Palestine, qui est un pays toujours en conflit, mais à chaque fois, les artistes se mobilisent pour dire à ces populations, on est avec vous, on vous soutient, on vous donne des œuvres, mais on met une condition sur ce don, il faut que la dictature, le conflit, la guerre s'arrête, et que ça soit le temps de la paix, donc le temps de faire des musées, le temps de la culture, et le temps de se poser dans des lieux pour réfléchir à ce qui vient de se passer et à l'histoire. Enfin, c'est les collections de l'espoir.
Merci Guillaume, c'est vrai que ça donne de l'espoir. Alors maintenant, rentrant dans le vif du sujet, Iliane, tu voulais nous parler d'une œuvre en particulier qui s'appelle L'Ange déchu. D'ailleurs, elle fait quoi au Moco ? Elle n'était pas censée être au musée Fabre normalement ?
Eh bien, en effet, Gilbert, normalement, c'est une des œuvres phares du musée Fabre. Simplement, en fait, elle est ici parce qu'elle avait été déplacée auparavant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est en plein dans la thématique de l'expo. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à propos de cette œuvre. On écoute tout de suite Guillaume.
Parce que quand on a décidé d'évacuer le musée Fabre, du coup, ça s'est fait dans la précipitation. Et il se passe quoi quand on fait les choses vite ?
On fait des bêtises.
On fait les bêtises, on casse. Donc là, du coup, on a mis des radios. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tous été chez le médecin pour faire une radio.
Ouais.
Oui. Hein, quand on se fait une fracture, on regarde ce qu'il y a dessous. Ben, en art, on fait pareil. On fait des radios pour regarder ce qu'il y a sous la peinture. Et au radio, on voit très bien. Il est tombé sur une échelle. Et ça l'a complètement traversé, hein, la plus belle partie du corps, hein, qui a été complètement déchirée. Et donc, du coup, ils ont dû faire deux restaurations. Hein, c'est le mot qu'on emploie quand on répare les tableaux, on le restaure. Deux restaurations pour que ça ne se voit plus. Voilà. Ça ne gêne plus la lecture, mais voilà, souvent, quand on va dans des musées, on oublie, y a souvent eu des accidents, il y a souvent eu des problèmes, on fait en sorte que ça ne se voit pas.
Bon, d'accord, mais cette œuvre, elle te touche particulièrement, non ?
Eh bien oui, en effet, personnellement, cette peinture alliée au contexte de cette exposition, ça m'a inspiré une grande émotion lyrique. Et du coup, j'aimerais bien vous lire quelques vers que j'ai écrits. Par tous les saints et les damnés, vous l'entendez ? Quoi ? Le cri du fils préféré ? Il est posé, là sur la terre. Désormais, c'est elle, sa mère. Mais avez-vous vu son visage ? Non, car, paraît-il, il le cache. Il a honte, n'est-ce pas, l'enfant tendre ? Du moment où ses cheveux enflammés rencontrent l'azur de ses yeux, on croit voir des aubes se faire pendre. Oh, mais qu'est-il arrivé au plus pieux de tous les anges ? Voilà qu'il a croqué la défaite et bu les grondements du Saint-Père. Quel festin splendide où l'hôte vous donne des baisers de révolte. Buvons à son exil éternel. Voyez, ô les bien chers tous, comme ces adelphes, ces frères et ces sœurs forment au ciel un cœur qui chante la clarté de leur idole. Croyez-vous qu'il existe des natures plus vouées au mal que d'autres ? Au mal, non. Au malheur, peut-être. Mais peu importe, car bientôt arrivera le temps de l'agnosticisme, et demain déjà, 1000 ans auront passé. Il faut savoir, grande dame, c'est tout le créateur d'un monde qui a façonné l'ire de ce regard. Ce regard, ces portes de l'univers. Elles renferment le défi, la rage, l'esthétique à l'état pur, Et puis, face contre face, la fierté et l'opprobre. Y a-t-il plus délectable que cette aporie qui rampe comme un ver? Mais j'y ai vu, plus que toute autre chose, une tristesse s'évacuant en une larme unique, celle d'un enfant qu'on laisse sur le bord d'un trottoir, frustration suprême dansant dans tous ses membres. Le tout lui offre des incidences assez poétiques à rendre.
Merci beaucoup, Iliane. Ça donne très envie d'aller voir ce tableau, soit au MoCo, soit au Musée Fabre, quand il aura repris sa place, évidemment. On écoute maintenant quelques réactions sur cette exposition, avant d'accueillir Pauline, la curatrice, qu'on a eu la chance d'interroger.
Alors bonjour. Après avoir vu l'exposition, là, vous êtes un peu à la fin. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Non, mais j'avoue que le sujet me plaît pas tout particulièrement. Et il est en résonance, surtout avec les sujets d'actualité en ce moment qui se passent, que ce soit au Burkina Faso ou en Ukraine. Et c'était intéressant de le voir à travers le prisme de l'art.
Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait justement des structures qui se sont mobilisées par rapport à l'art, contre ce qui pouvait se passer dans les différents pays, et qui du coup ont exprimé, bon après, la manière dont c'est exprimé, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, enfin, à la limite, peu importe, mais je trouve que déjà la démarche, elle est intéressante. Et c'est important parce que je pense qu'elle est peu connue. Elle est peu connue.
Est-ce que vous pensez que la guerre produit une certaine forme d'art chez les artistes ?
Oui, oui, je pense. Mais en fait, la guerre... Enfin, c'est pas parce qu'il y a la guerre que la vie s'arrête. Donc, mais après, ça devient le sujet prenant de la vie quotidienne des gens qui la subissent. Que ce soit même, par exemple, pendant le siège de Sarajevo, où il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, où c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'ennuis, en fait. Et l'artiste, il va vivre de cet ennui, il va créer ses œuvres à travers cela. Mais c'est même à travers le prisme du soldat. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'artisans qui se sont fait enrôler et tout, et ils ont continué à produire leurs œuvres, par exemple en taillant des douilles d'obus ou ce genre de choses.
Peut-être pour finir, est-ce que vous pensez finalement que l'art rend libre ?
Oui, c'est une certaine liberté. De toute façon, c'est juste pour évacuer tout simplement. Dans une situation comme la guerre, nos libertés, elles n'existent plus réellement. Donc l'art permet de l'exprimer, de la démontrer et de la partager aux autres également, si elle survit, bien sûr.
Ouais, je pense qu'elle a raison, c'est une forme d'échappatoire. En plus, c'est pas forcément le sujet même, mais c'est un échappatoire, absolument.
Là où notre survie est mise en jeu, finalement, l'art, c'est tout ce qui nous reste. On revient toujours à cette nature propre de l'humain de créer, en fait.
L'instinct humain, l'instinct de survie va toujours être plus fort, mais une fois que l'instinct primaire de survie est passé, qu'on peut survivre, ouais, c'est sûr que l'humain il va se construire autour de quelque chose, il a besoin d'exister, l'humain. Et l'art, c'est une forme d'existence, enfin, ça va rester dans le temps. Une œuvre, ça restera dans le temps, l'humain, il va mourir. Et même le moindre témoignage, c'est toujours important, puisqu'on aura oublié d'ici là, ils ne penseront plus à ça, parce qu'au final, ils n'ont plus envie de penser à ça, mais il faut garder en tête et que c'est une trace dans l'histoire.
Les exilés sont comme les loups. Partout où nous allons, nous rejoignons des meutes qui ne sont pas les nôtres. Nous participons, nous chassons ensemble. Et pourtant, la lune nous invite à nous mettre à l'écart pour hurler de solitude. Luis Sepúlveda.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous êtes la curatrice de cette exposition.
Oui,
et avec Vincent. Nous avons quelques questions à vous poser.
Je vous écoute.
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire être curateur dans un musée ?
Alors, être curateur, c'est quelqu'un qui organise des expositions. Donc, on va à la fois sélectionner des œuvres et réfléchir à comment on les montre pour le public. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre l'artiste et le public et on essaye à chaque fois de construire une exposition qui soit à la fois sensée, qui fasse sens, qui questionne, qui fasse débat, qui apprenne des choses aux gens, qui leur propose un certain ravissement parfois. Donc voilà, on est là juste pour mettre en œuvre. Alors il y a plein d'histoires de logistique, transporter les œuvres, les installer, puis aussi les accrocher dans un certain ordre, réfléchir à s'il faut donner des explications, pas trop d'explications, un peu d'explications. Tout ça.
Ok, merci beaucoup. Et on voulait aussi vous demander quels étaient les objectifs de la construction de cette exposition.
Alors pour Musée en exil, on a voulu voulu, il y avait plusieurs objectifs. À chaque fois, nous, on essaye de raconter des histoires dans les murs de l'hôtel du Moco. Et donc, le premier objectif, c'est de mettre en valeur des collections exceptionnelles qui viennent du Chili, qui viennent de Sarajevo, qui un jour seront en Palestine, donc qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à Montpellier. C'est de mettre en valeur ces collections, de mettre en valeur l'esprit qui a fondé ces collections, c'est-à-dire d'avoir une envie de faire partager à un peuple un patrimoine culturel, contemporain et artistique. Et puis, c'est de raconter des histoires en prenant appui dans le passé, pour expliquer que des choses se sont passées avant, qui ont donné lieu à ce qui se passe aujourd'hui, et pour donner à voir aussi des œuvres d'art, des artistes, des expressions particulières, uniques, des peintures, des messages, des envies de partager, et des envies d'espoir aussi.
Merci beaucoup pour cette réponse. Par conséquent, est-ce que c'est difficile de construire une telle exposition, et quelles en sont les contraintes ?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. Enfin, il y a à la fois des contraintes matérielles, bien sûr, avec un budget. Ça coûte cher de faire venir des œuvres du Chili. Voilà, il y en a. Par exemple, il y avait une œuvre qu'on aurait bien aimé faire venir, mais elle était trop grande. Donc, pour passer dans un avion, c'était un peu compliqué. Ça devenait tout de suite trop cher. Et puis, il y a des contraintes aussi. De ce qu'on se pose nous-mêmes, tu vois, par rapport à, par exemple à la situation en Ukraine, mais on en reparlera peut-être après. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation en Ukraine ? Qu'est-ce qu'on va montrer de cette situation en Ukraine à propos d'un art qui est plutôt détruit que mis en valeur là-bas ? C'est pas une collection qui s'est constituée. En même temps, on voulait en parler et c'était difficile parce qu'on n'est pas non plus des journalistes qui vont vous dire ce qui se passe dans le monde. Nous, notre sujet d'étude, c'est les artistes et l'art et la création. Donc, il y avait ce genre de contraintes. Et puis aussi, quand on évoque des conflits, donc le Chili, par exemple, la dictature au Chili, on a voulu aussi essayer d'expliquer un peu parce que ça, c'est des moments de l'histoire que pas tout le monde a en tête. Donc c'était aussi essayer d'écrire un discours qui pouvait être simple sans être simpliste, factuel, sans prendre parti, neutre, mais sans oublier non plus et sans faire semblant que tout va bien, qu'il y a quand même des gens qui attaquent et des gens qui se défendent. Donc voilà, c'était ce genre de complexité.
On a parlé de l'ange déchu. Pourquoi vous lui avez donné une place ? Racontez-nous si c'est difficile de faire venir cette œuvre du musée Fabre, même si elle est à Montpellier.
Figurez-vous qu'au départ, c'était un peu un rêve. On avait vraiment envie de le montrer. On s'était dit, on espère qu'ils vont nous le prêter. Parce que les difficultés, c'est simplement que c'est une œuvre très connue, qui fait partie des chefs-d'œuvre du musée Fabre et ses collections. Et que donc, en général, les musées n'ont pas forcément envie d'enlever de leur mur, ou bien c'est un tableau qui est souvent prêté ailleurs. Donc c'était possible qu'il soit prêté à ce moment-là. Donc il se trouve qu'il n'était pas prêté, et pour nous c'était important de titre, parce que d'une part, quand on crée une exposition, qu'on fait cette introduction, il y a beaucoup de textes à lire, on se dit qu'il faut vraiment montrer des œuvres aussi, parce que sinon le public va s'ennuyer. Et donc c'était important de montrer des œuvres en même temps. C'était compliqué pour nous de faire venir des œuvres d'un patrimoine historique important. On ne pouvait pas faire venir la Joconde, on ne pouvait pas faire venir... Voilà. Mais il se trouve que le Cabanel était un des chefs-d'œuvre près de chez nous, et surtout, il avait subi un grand accident lors d'une de ses évacuations, donc il faisait complètement partie de l'œuvre. Et puis, ce phénomène de chef-d'œuvre du Cabanel, ça nous a intéressé aussi, parce que cette qualité de chef-d'œuvre, il l'a acquise finalement il n'y a pas si longtemps, parce qu'avant, Cabanel, c'était un peintre pompier, et pendant toute une période de l'histoire, on se disait, c'est pas un peintre intéressant, comme tout le monde à cette époque, cette peinture est très lisse, elle dit rien, elle évoque rien. Et en fait, c'est que vraiment depuis quelques années que c'est devenu un véritable chef-d'œuvre, une icône pour toute une génération. Et d'ailleurs, je crois qu'il vous a inspiré beaucoup.
Oui, exactement. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt, la guerre en Ukraine. Donc il y a désormais une guerre en Europe. On en parle assez souvent aux informations. Comment est-ce que vous avez fait pour intégrer la guerre en Ukraine dans l'exposition ?
Alors, on s'est dit que quand on parle de la création en temps de guerre... Et nous, alors que ça faisait 2 ans qu'on préparait l'exposition, tout d'un coup, la guerre en Ukraine se déclenche. Et donc, on ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. On parle de la situation au Chili, on parle de la situation en Bosnie-Herzégovine, on parle de la situation en Palestine, mais l'Ukraine, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, comme on est dedans et qu'on n'a aucun recul, on ne peut pas préparer les choses comme on aurait voulu. On ne connaît pas d'artistes ukrainiens, donc on essaye quand même de faire venir une partie de cette scène artistique ukrainienne en se demandant mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là-bas? Est-ce que les artistes fuient? Est-ce qu'ils restent sur place? Est-ce qu'ils résistent? Et du coup, en faisant des recherches avec Ashley, qui est là, qui pourrait vous en parler si ça vous intéresse, on est tombé sur cette association qui s'appelle Artistes Support Ukraine, qui mettait à disposition des lieux culturels une exposition prête à être imprimée. C'est-à-dire que c'était justement dans l'idée de faire connaître la situation des artistes en Ukraine que cette association a mis à disposition cette exposition que quiconque pouvait imprimer pour la montrer à des gens, pour alerter les gens de la situation des artistes en Ukraine. Et c'était intéressant pour nous parce que c'était que des artistes en Ukraine et c'était que des œuvres qu'ils avaient créées à peu près depuis le début de la guerre, c'est-à-dire en février. Et c'était à la fois un témoignage de personnes qui vivaient cette situation horrible et en même temps des œuvres artistiques.
Et vous l'avez entendu dans le micro-trottoir, on s'est demandé si la guerre, paradoxalement, permettait une autre expression artistique et qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est une question intéressante et assez complexe, mais d'une part je voulais juste rappeler que les œuvres qu'on expose là dans l'exposition Mise en exil, c'est pas toutes des œuvres qui sont créées pendant la guerre. Et surtout elles sont pas forcément faites dans la situation de guerre, puisqu'elles sont souvent créées justement en dehors du lieu. Puisque pour le Chili, c'est que des artistes qui étaient en France qui ont donné des œuvres qui n'ont pas été faites au Chili et pendant la dictature, même si certaines et beaucoup évoquent cette situation. Mais d'une part, comme vous l'avez aussi beaucoup dit dans le micro-trottoir, il y a cette notion de liberté. Cette notion de liberté qui est vraiment très liée à la notion artistique, puisque c'est un acte libre, un acte qui n'est pas utile, qui n'est pas rentable, qui n'est pas, voilà, qui est libre. Une affirmation de liberté. Et peut-être que l'affirmation de liberté, elle est d'autant plus importante en temps de guerre. Et de toute façon, je pense que très souvent, la création artistique, elle a quelque chose à voir avec le conflit. Pas forcément avec la guerre, mais en tout cas avec le conflit. L'indignation, le sentiment d'injustice, le sentiment de devoir et pouvoir exprimer quelque chose dans un monde qui ne nous convient pas pour telle ou telle raison, puisque c'est un langage différent que celui de la parole et de l'échange. Donc ça peut être une autre expression. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas une expression unique, artistique. Ce ne sont que différentes expressions. Et c'est toute l'ambiguïté, le mystère et la beauté de l'art, c'est qu'à chaque fois, ce sont des expressions uniques et différentes, mais qui vont essayer de parler à tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
On va s'intéresser maintenant à une partie qu'Enzo a repérée dans l'expo L'Enfance.
Quand je rentre dans la salle de Sarajevo, la première chose que je vois, c'est un théâtre d'ombres chinoises morbides, comme des squelettes ou même des têtes de mort. C'est en réalité un théâtre qui montre des méchants grâce à la lumière et au ventilateur. Ces silhouettes inquiétantes prennent vie sur les trois murs du fond. Je pense que l'artiste a voulu nous montrer combien cela doit être difficile d'être un enfant pendant la guerre. Et je vois aussi de l'autre côté de la salle une autre installation, une peluche qui se fait écraser par un poteau. C'est comme un enfant qui se fait écraser par la guerre. Et cette peluche m'a touché parce que j'ai la même à la maison.
Merci Enzo. Cette peluche aussi, elle me touche. Et maintenant, on va aller en Amérique du Sud avec Félix. Et plus précisément au Chili, c'est bien ça?
Oui, moi aussi j'ai envie de vous parler d'une œuvre qui m'a bien plu. J'ai trouvé cette œuvre très marquante. Le message est plutôt explicite. On comprend de suite le point de vue de l'artiste. Pinochet est représenté en méchant. La contre-plongée met en valeur les ombres et les creux et les reliefs de son visage. Le drapeau des États-Unis en fond sous-entend le soutien de l'Amérique pour Pinochet. Les couleurs sont vibrantes et vives. J'ai beaucoup aimé cet aspect de l'œuvre. Le tableau est vraiment joli, ce qui contraste avec le message.
J'ai aussi beaucoup appris sur l'histoire du Chili grâce à Guilhem.
Bon, ça va être une dictature dure, hein. Il va y avoir beaucoup de répression, beaucoup de massacres, de tortures, de disparus. Bon. Et énormément de Chiliens vont du coup quitter le pays. Et il y a un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, de poètes qui vont venir s'installer en France. Parce qu'on a Paris, on se dit voilà, la France, c'est un pays culturel, il y a beaucoup de musées, etc. C'est un lieu à l'abri. Et très vite, ils vont se dire en fait, on va créer une association et on va donner des œuvres au peuple chilien. Et quand il n'y aura plus la dictature de Pinochet, toutes les œuvres qu'on a réalisées, qu'on a données à l'association, on les enverra au Chili pour faire un musée. Et alors, le musée, il a un nom. C'est le musée de la solidarité Salvador Allende.
Avant de finir, on écoute les impressions d'Iliane suite à la visite de la salle qui est consacrée à la Palestine.
Alors oui, merci Alima. Donc, la Palestine. La Palestine, c'est un État du Moyen-Orient qui est colonisé par l'État d'Israël depuis juin 1967. Donc, pour vous introduire un peu. En effet, il existe un conflit entre Palestine et Israël depuis la création de ce dernier, c'est-à-dire en 1948. Pour résumer brièvement, c'est à partir du XXe siècle et de l'éclatement de l'antisémitisme, avec l'Allemagne nazie et ses alliés notamment, que certains juifs, avec l'appui d'autres pays, l'Angleterre à l'époque, ont décidé de fonder leur propre État sur les terres palestiniennes, ce qui a créé différentes révoltes et des guerres entre Arabes, dont les Arabes palestiniens, et Israéliens. Bon, alors toutes ces révoltes, elles ont été étouffées par Israël et les guerres perdues pour les Arabes. Mais aujourd'hui, l'objet de la collection Palestine au Moko, dans le cadre de l'exposition Musée en exil, c'est de rassembler différentes œuvres d'artistes palestiniens ou non, qui désirent soutenir les Palestiniens qui vivent ce conflit depuis 4 générations maintenant. Finalement, on retrouve au sein de cette rétrospective plus d'œuvres d'artistes non palestiniens, l'objectif de l'expo n'étant pas de retirer de leur pays les œuvres qui sont directement d'origine palestinienne. Avant de parler plus précisément des œuvres, on note aussi dans les buts de cette collection l'aspiration à montrer le soutien face à un événement assez récent. En effet, les Palestiniens et militants pro-Palestine avaient pour projet de créer un musée en Palestine et à Jérusalem. Or, le 6 décembre 2017, Donald Trump, qui est le président des États-Unis à ce moment-là, a reconnu publiquement Jérusalem-Est comme capitale officielle d'Israël. Symbole fort, donc, en faveur de la colonisation de la Palestine par Israël. Donc ce musée, finalement, il s'est retrouvé en exil avant même de voir le jour. C'est donc totalement dans le thème de l'exposition d'aujourd'hui. C'est « Il faut que ce conflit se stoppe » et un jour, on l'espère, il prendra fin. Maintenant, parlons plus précisément des œuvres que l'on trouve autour de cette thématique. Déjà, on en trouve de toutes sortes. Peintures, fresques, dessins, objets assemblés entre eux, photographies, etc. Des photos, on en trouve beaucoup dans cette collection, des photos journalistiques surtout. L'abondance de ces photographies, elle nous a notamment renvoyé à un portrait photo qui est assez connu, qui se trouve à Paris, à l'Institut des Mondes Arabes, et qui avait été réalisé pour montrer le visage d'un des poètes les plus importants pour les Palestiniens, un poète qui a beaucoup écrit sur leur exil et qui n'est autre que le président de l'Union des écrivains palestiniens, à savoir Mahmoud Darwish. Pour parler un peu des œuvres qui m'ont, à moi, particulièrement marqué, il y a d'abord le tableau de Mohamed Joha, qui en fait est une vue aérienne d'un camp palestinien. Alors en fait, quand on voit ce tableau, on voit tout plein de tissus qui sont empilés un petit peu entre eux et on ne comprend pas trop ce que ça représente. Et en fait, ça prend tout son sens quand on lit le titre de l'œuvre, donc « Vue aérienne d'un camp palestinien », on comprend tout simplement que effectivement, ça représente les tentes des Palestiniens qui vivent dans la misère la plus totale. Et déjà, ça m'a pas mal touchée. Ensuite, il y a eu le tableau de la jeune artiste palestinienne qui s'appelle May Mourad. C'est une peinture en fait avec l'apparition d'un cadre informatique au milieu qui affiche You have a home there, but you can go back. Et en fait, tout simplement, on comprend surtout pour May Mourad qui est immigrée, qu'effectivement, elle a sa maison en Palestine. Sauf que elle peut pas y retourner étant donné le contexte. Dernièrement, une œuvre d'une artiste argentine, c'était en fait des éclats de verre. En fait, cette œuvre, elle souligne tout simplement l'importance de la mémoire. Cette idée que tant que les souvenirs ils existent, les combats importants, la richesse de nos cultures, elles continuent d'exister aussi. Moi, ça m'a marqué franchement comme message. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, à Guillaume qui nous a fait découvrir l'exposition, aux visiteurs qui ont donné leur avis à la sortie, et surtout merci au Moko.
On a appris beaucoup de choses encore. On remercie surtout la MDA qui chaque mercredi après-midi accueille l'atelier radio et bien sûr sans oublier l'association Wakadi.
Au revoir et à bientôt pour d'autres aventures radiophoniques.